Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Anne Montmoton. Bonjour Anne.
Bonjour Victoire.
Anne, tu es responsable pour l'association Enfants du Mékong pour la Birmanie. C'est un pays que tu connais depuis de nombreuses années et tu t'y rendais avant le début de la crise du Covid environ 2 fois par an. En plus de ça, tu travailles tous les jours et tu es en contact tous les jours avec des dizaines de responsables EDM birmans. Ce sont eux qui agissent au quotidien pour leur pays et pour assurer le suivi des filleuls. La Birmanie a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours dans la presse puisqu'on a appris au lendemain de Noël qu'un massacre avait eu lieu dans l'État Kaya. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Que s'est-il passé ce jour-là?
Ce massacre a eu lieu le 24 décembre. En fait, il s'agit de représailles des forces armées, la Tatmadaw, suite à un affrontement entre des militaires et des forces de défense Karenni. Ils ont tué et ils ont carbonisé les corps qui ont été retrouvés dans les voitures. Et ça a été médiatisé parce qu'il y a deux travailleurs sociaux de l'ONG Save the Children qui faisaient partie des victimes. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Il y a surtout dans l'État de Chine, l'État Karen, enfin un petit peu partout en Birmanie, régulièrement ce type d'exactions.
Donc récemment, il y a eu d'autres massacres comme ça dans d'autres États?
Alors les États qui sont le plus impactés par les affrontements entre militaires et la résistance civile, ce sont l'État de Chine, l'État Kaya, l'État Karen au sud. Voilà, il y a à peu près 11 000 personnes qui ont été arrêtées depuis le début de la crise. Tous ces faits, en fait, ont entraîné le déplacement de population. Enfin, les chiffres de l'UNHCR, c'est 220 000 personnes déplacées. Oui, c'est énorme. Déplacées dans le pays, les maisons sont brûlées, les gens fuient face à l'arrivée des militaires.
Cette situation catastrophe, c'est le cas depuis quand même de longs mois, puisque ça a commencé en février 2021.
Depuis qu'en fait la résistance s'organise en mode défense, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, parce qu'avant en fait le mouvement de protestation suite au coup d'État, c'était des manifestations pacifiques de millions de personnes. Ça a basculé petit à petit à partir du mois d'avril. Ça s'intensifie en fait depuis le mois de septembre, parce que le gouvernement dissident qui refuse l'arrivée des militaires a appelé ouvertement la population à se rebeller en prenant les armes. Et en représailles, les militaires, début novembre, ont annoncé aussi qu'ils faisaient une offensive d'ampleur pour mater la résistance.
Pour contrecarrer justement ce mouvement de protestation. Oui. Dans ce contexte tendu, nos filleuls, nos responsables locaux, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce que... voilà, on peut être rassuré de ce côté-là.
Les responsables locaux avec qui on est en contact, donc essentiellement par les réseaux sociaux, par mail, par Viber, vont bien. Les filleuls aussi, ils sont suivis, les familles continuent d'être suivies, surtout dans les villages. Pour ce qui est des jeunes qui étaient en foyer, ils sont retournés dans leur village d'origine. Donc là, le lien est un petit peu plus compliqué. Dans certaines zones, Internet est coupé. Par exemple, l'ouest du pays, ça a été régulièrement coupé. C'est la seule zone où c'est un petit peu plus difficile. Et en fait, on a des relais locaux à Rangoon qui peuvent téléphoner via le réseau local. On a des nouvelles régulières quand même.
Pour ceux qui ne sont pas au fait de l'actualité, est-ce que tu peux nous rappeler comment est-ce que la junte militaire a pris le pouvoir en Birmanie?
Alors c'est le 1er février, hein. C'est une date facile à retenir. Bah, les militaires ont repris le pouvoir parce que depuis novembre 2020, ils contestaient le résultat des élections qui ont été remportées à 80% par le parti de la Ligue nationale pour la démocratie, qui est le parti de Aung San Suu Kyi. C'était une claque en fait pour eux de voir que la quasi-totalité de la population votait pour la LND.
Et depuis que les militaires ont pris le pouvoir, il y a beaucoup de milices qui se sont constituées.
Oui, alors bon, en fait, ça s'est fait progressivement. Hein. Au départ, c'était une réaction massive de toute la population qui est descendue dans la rue, etc. Il y a eu la grève qui s'est installée chez les professeurs, les médecins surtout, enfin les fonctionnaires. Et puis, donc ça a duré 2-3 mois. Et voyant que les militaires ne bougeaient pas, les jeunes surtout et les civils se sont constitués en petits groupes. Ils sont allés se former auprès des armées ethniques qui, eux, étaient déjà rodées au combat. Et l'objectif aussi du gouvernement dissident, c'est de fédérer tous ces petits groupements épars et les armées ethniques pour combattre tous contre les militaires, voilà, d'une manière unifiée.
La situation économique des familles birmanes, qu'en est-il ?
Très compliqué. En fait, les prix ont énormément augmenté, la nourriture, le carburant, les opérateurs téléphoniques. En fait, ça, c'est la conséquence du coup d'État. mais renforcé par, qui a plutôt aggravé la crise qui était à cause du Covid, surtout des restrictions sanitaires, parce qu'avec ces restrictions qui ont été mises en place dès mars 2020, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé, donc énormément de pertes d'emplois, surtout Rangoon et les grosses villes. Et dans les campagnes, les gens ne pouvaient pas se déplacer pour aller cultiver leurs terres, ensuite vendre leurs récoltes. C'est très compliqué pour les familles. Ça, les responsables nous le disent régulièrement. Aujourd'hui, on est retourné au niveau d'appauvrissement de 2005, donc avant l'ouverture et la transition démocratique en Birmanie. Et il y a le nombre de personnes vivant avec moins de 1,90 $ par jour, donc c'est le seuil de pauvreté, a doublé depuis le début de la crise du Covid. C'est pour ça que le parrainage, même si les jeunes n'ont pas pu aller à l'école pendant un certain temps, est très utile parce qu'il permet aux familles de vivre au quotidien.
Et alors justement, pour l'école, comment ça se passe pour les filleuls ?
Là, cet été, les écoles ont refermé à cause du Covid et les militaires, voulant faire tourner le pays, ont décrété la réouverture début novembre. Mais seulement 20 à 25% des effectifs sont retournés à l'école. Les profs font grève.
Justement, pour contester toujours. Le pouvoir en place.
Exactement. Ensuite, parce que c'était sous protection, entre guillemets, de l'armée, donc les parents avaient peur que ça dégénère et voilà, se faire arrêter, je ne sais pas. Et puis, c'est aussi une façon de protester. En revanche, les responsables de programme, depuis plusieurs mois déjà, ont mis en place des cours complémentaires dans les foyers. Ils ont rappelé un certain nombre de jeunes. Et même dans les villages, ils font des programmes d'éducation à la maison. Enfin, ils font énormément de choses pour pallier à cette absence d'école.
Oui, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'ils sont vraiment présents, qu'ils continuent à remplir leur mission. Les responsables de programme, qu'est-ce qu'ils te disent sur l'évolution de la situation ?
Ils sont plutôt pessimistes, mais toujours aussi déterminés à ne pas voir les militaires s'installer. Enfin, personne ne peut dire qui va l'emporter, des militaires, de la résistance, ou si c'est un chaos qui va s'intensifier. Et malheureusement, c'est plutôt vers ça qu'on va. En fait, dans leurs propos, on sent qu'ils sont de plus en plus sans espoir. Mais pour autant, ils ne sont pas prêts d'abandonner. Et je pense comme beaucoup encore de la population.
On a parlé rapidement du Covid. Est-ce que le système de santé tient le coup face à l'épidémie ?
Alors, au cours de la mousson, donc c'est les mois de mousson, c'est juin à août, le Covid a touché la Birmanie, alors que jusqu'à présent, ils n'avaient pas eu vraiment de cas. Et ça a en effet énormément fragilisé le système de santé. Puisque peu de gens avaient accès aux soins, les médecins faisaient déjà grève et continuaient. Il y avait très peu d'oxygène, de bouteilles d'oxygène à disposition. Les militaires, comme il y avait des restrictions très fortes, ça les arrangeait en fait que les gens restent chez eux, etc. Donc ils ont aussi été accusés d'instrumentaliser cette crise. Mais voilà, ils s'en sont sortis. Là, il y a beaucoup moins de cas. C'est plus une période de crise.
Merci Anne pour toutes ces informations. Donc la situation sanitaire s'est un peu améliorée ces derniers mois. En revanche, la guerre civile est toujours là. Visiblement, ça ne va pas s'améliorer dans les mois à venir. Qu'est-ce que nous, on peut faire ?
On arrive bien à faire parvenir les lettres aux filleules à partir du moment où elles arrivent à Rangoon. Et si, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais si les parrains ne peuvent pas envoyer leurs lettres par la poste, ils nous scannent la copie par mail et nous, on peut l'envoyer ensuite par mail. Donc ça, c'est important, c'est un vrai soutien moral pour les jeunes.
Il y a aussi encore un projet de solidarité, un gros projet de solidarité, de projet de nutrition, de soins et de cours complémentaires qui est actif, c'est bien ça ?
Oui, depuis le début de la crise, on a soutenu pour 700 000 euros, grâce à la générosité des parrains, donateurs, ce que tu disais, des projets de nutrition principalement et de cours complémentaires ou informels. Et ça, c'est toujours possible d'aider ces projets parce qu'on continue d'avoir des demandes.
Et ce sont des projets qui sont remontés par les responsables de programme, c'est ça ?
Oui, tout à fait. On a trois staffs, travailleurs salariés qui sont à Rangoon, mais qui sont en fonction de support pour la correspondance et pour le suivi des programmes. Mais tout le reste est géré par les responsables locaux qui sont partout dans le pays. Et au contact des personnes, des filleuls, des parents. Et c'est eux qui nous font remonter
les
besoins, exactement.
Donc il y a cette caisse de solidarité à laquelle il est toujours possible de participer pour soutenir tous les projets d'enfants du Mékong en Birmanie. Un grand merci de nous avoir écoutés et on refera très prochainement un point sur l'actualité en Birmanie.